Kiosque Magazine.
Alors, bonjour à tous, en ce mardi 14 avril. Eh bien oui, je ne vous ai pas quitté. Bon, je vous écoutez, mais je suis de retour avec vous, Michel Audet. Et malgré la voix quelque peu déficiente, ben le cœur y est, hein?
Oui.
Alors, je suis en compagnie de mes fidèles acolytes, André-Étienne.
Bonjour.
Et Marie-Lalande.
Bonjour.
Vous allez bien?
Très
oui,
bien.
Très bien, merci.
Enfin, le soleil nous est
revenu. Enfin,
enfin. On n'y croyait plus, hein, presque.
Ah, peut-être que je vous l'ai rapporté.
Ah oui,
c'est
oui.
Qui sait? Alors, de quoi vous nous parlez, André, pas en particulier?
Oui, alors, je vais vous parler de la soie d'Amérique pour braver le grand froid. C'est un article que j'ai trouvé absolument passionnant, que je voulais partager avec vous. Et un autre article aussi passionnant, le tai chi pour la vie. Ça me fait grand plaisir de vous en parler. Et un article plus court sur les joyeux festins.
Oh, les joyeux festins, j'aime beaucoup. Et Marie?
Alors moi, je vais vous parler des chutes Niagara. Alors, on va se questionner sur est-ce qu'elles, le fait qu'elles existent ou non maintenant. On va parler aussi...
J'espère je vais vous parler, qu'elles
oui,
existent.
Oui, mais tu vas voir. je vais vous parler d'acidification des océans et d'un peu d'espoir pour les chauves-souris.
De mon côté, vous savez que j'aime voyager.
N'est-ce pas?
Oui, c'est connu.
Mais là, je suis retour pour un certain temps. Et je vais vous amener faire un tour à une ville que je trouve extraordinaire. Je ne suis pas un adepte des villes, mais il y en a qui sont très belles. Et parmi celles-ci, il y a Saint-Pétersbourg, en Russie, qui est absolument magnifique. Je vous ai parlé aussi déjà du thé, des thés de Darjeeling en particulier. Je vais revenir sur l'ère du thé et un petit peu d'histoire du thé aussi.
On aime ça.
Bien, avec ma voix mélodieuse ce matin. Alors, ne nous quittez pas.
Eh bien donc, je vous ai annoncé que j'allais vous parler de la soie d'Amérique pour braver le grand froid. C'est un article qui est pris de Radio-Canada, qui est paru le 23 mars 2015. Alors imaginez, donc, on est au sommet des Montagnes Blanches, 1780 mètres d'altitude. Il fait moins 30 degrés Celsius avec des vents de 25 à 30 km heure.
On croirait chez nous, hein, il y a quelques temps.
Oui, c'est ça. Mais là, c'est quand même pire, hein, parce qu'on sait que dans les Montagnes Blanches, comme le mont Lafayette, où ils étaient justement, il a la réputation d'avoir un des pires climats de la planète avec des vents changeants, etc. Donc, nous avons un alpiniste amateur mais expérimenté qui s'appelle Jean-François Tardif, et Marc Tremblay, qui est PDG de la société Chlorophylle, les vêtements d'hiver que vous connaissez peut-être. Tous les deux, ils sont vêtus d'une combinaison qui est rembourrée en asclépiade.
Oh là là,
asclépiade.
C'est un drôle de
Qu'est-ce
nom.
Qu'est-ce que c'est que l'asclépiade?
Ah, c'est tout un nom, effectivement. Il faut se pratiquer pour le dire. C'est vrai, oui. Je me suis pratiqué avant. Alors, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est une plante que vous avez probablement vue, peut-être pas identifiée comme sa plante asclépiade. On la trouve au bord des chemins, elle est très odorante et elle a une multitude de propriétés. Alors, je vous signale d'ailleurs que les Amérindiens utilisaient déjà cette plante dans les vêtements. Leur alimentation, mais il faut faire attention parce qu'elle peut être toxique, mais aussi comme plante médicinale, notamment pour la contraception.
Ah oui?
Oui, elle a un maximum de possibilités. C'est un isolant acoustique d'abord. Surtout thermique, c'est celui qui va, cette propriété qui va nous intéresser. Pour la petite histoire, je vais vous dire que le roi Louis XV utilisait déjà ce qu'on appelle la soie d'Amérique pour ses vêtements chauds et avait attribué l'exclusivité de l'exploitation de la plante à son bonnetier, monsieur de la Rouvière. Bon, donc finalement, ça s'est terminé assez vite parce que l'exploitation du coton et de la soie était urgente. Une autre propriété de cette fibre, c'est qu'elle repousse l'eau. Particulièrement intéressant pour des vêtements d'hiver,
oui.
Mais elle absorbe l'huile et le pétrole deux fois plus que les matériaux existants sur le marché. En cas de déversement pétrolier, ça pourrait
ça,
être intéressant,
oui.
N'est-ce pas, hein?
Oui.
Alors, et d'ailleurs, il y a M. Simard qui est PDG de Protextile et qui dit textuellement « On trouve peu de caractéristiques semblables dans le monde naturel ou synthétique. » Et il précise « C'est comme un tube d'air qu'on peut utiliser dans différentes applications et qui procure des propriétés fantastiques. » Cette plante, elle est nouvellement cultivée et elle est désormais connue sous le nom de Soyez du Québec.
Oh, c'est joli, ça.
C'est joli, joli, hein? Bah, oui. Et puis, ce que je vais vous dire, là, c'est joli aussi, c'est qu'elle est indispensable à la survie du papillon monarque qui s'en nourrit. C'est vraiment la nourriture de prédilection du papillon monarque. Elle a différents noms, d'ailleurs. Donc, asclépiade, soie du Québec, soyez du Québec, cochon de lait, cotonnier, herbe à la ouate. C'est joli, hein?
Oui.
Petit cochon, herbe aux perruches. Langue de vache.
Bon, je préfère la soie du Québec.
Oui, c'est pas mal. Ben oui, c'est pas mal. Vraiment, moi, c'est vraiment la définition que je trouve la plus jolie. Bon, revenons à l'expédition en question.
Oui.
Donc, les deux messieurs ont gravi le mont Lafayette pour tester les vertus isolantes de cette fibre naturelle du Québec. Devinez quoi ? 6 heures plus tard, revenu à la base, l'alpiniste a déclaré « On est resté 20 minutes en haut ». C'est quasiment trop chaud. Le Sioux est trop épais. Le Sioux, c'était dans le texte, hein, alors je l'ai repris. Ils ont eu trop chaud. Marc Tremblay, donc, le PDG de Chlorophyll, est très satisfait et il dit « La performance de l'isolant est indiscutable, c'est chaud. » Il voulait tester plusieurs choses. La technicité du produit, comment ça bouge, comment ça travaille et aussi la chaleur. Bon, en ce qui concerne la chaleur, je pense que c'était assez concluant avec le commentaire de l'alpiniste. Et il souligne que le vêtement a été rembourré avec 2 couches d'asclépiade. Il suggère donc d'en mettre qu'une. Mmh. Ça va être compressible, plus léger. Le PDG de Protextil, l'entreprise qui exploite l'asclépiade, constate qu'il y a des ajustements à faire, mais il est ravi des résultats. Il faudra doser simplement l'épaisseur du rembourrage pour le premier test.
Alors, est-ce que c'est mieux que du duvet?
Ah, ça, c'est une bonne question, parce qu'effectivement, peut-être que ça va détrôner le duvet. La réponse, elle était celle de M. Tardif, l'alpiniste. Le duvet, c'est ce qu'il y avait de plus chaud jusqu'à maintenant. Maintenant, on arrive avec une fibre naturelle qui est compressible, aussi compressible que le duvet. Elle est plus chaude à poids égal, moins chère, qui ne se mouille pas. C'est un point important pour un alpiniste.
Ben oui, je comprends, bien sûr. Et est-ce qu'il y a des débouchés pour ça? Est-ce qu'on a commencé à l'exploiter? Ou...
Oui, c'est vraiment important. Vous avez vu toutes ses propriétés. Elle a été longtemps considérée comme une mauvaise herbe, mais elle pourrait faire naître une nouvelle industrie de taille considérable. Actuellement, un ingénieur en textile de Granby, qui s'appelle François Simard, a trouvé le moyen d'exploiter les propriétés de la plante, et en particulier sa fibre, sur une échelle industrielle. Alors, donc, vous demandiez des débouchés. Mmh. On a des essais en cours au Québec. Pour la première fois, une 20aine de cultivateurs qui sont réunis au sein d'une coopérative qu'ils ont appelée Monarque. Ils ont fait pousser de l'asclépiade qu'on ne trouvait qu'à l'état sauvage. Et il y a un agriculteur qui fait un commentaire qui disait « Je n'aurais pas souvent la chance dans ma carrière d'être au début d'une nouvelle industrie pour laquelle il y a un marché très, très lucratif. » Pas mal pour une plante que je considérais comme indésirable. Cette année, c'est la première récolte à grande échelle en Mauricie. Je vais vous parler un petit peu plus tard d'autres qualités de cette asclépiade, d'accord? Alors, à tout à l'heure.
Ah, je vous amène faire un tour à une ville que j'adore, qui s'appelle Saint-Pétersbourg, et non pas Saint-Pétersbourg en Floride.
Oh.
Non, mais j'entends ça parfois, Saint-Pétersbourg. C'est bien Saint-Pétersbourg. Hein. C'est tiré d'un article d'Étienne Boucher dans la presse du 7 février. On l'applique parfois la Venise du Nord. Ben non, non et non. Venise, c'est un dédale de ruelles tortueuses. Saint-Pétersbourg, c'est un damier d'avenues. C'est vraiment différent.
Okay.
Très, très différent. Et on y trouve la perspective Nevsky. Dès que vous mettez le pied dans la perspective, vous oubliez immanquablement vos préoccupations. C'est l'endroit où les gens se rendent, non pas uniquement par nécessité. Et ça, c'est Donc, il dit, c'est Gogol qui a écrit cela dans de la perspective Nevski. C'est l'artère centrale de la ville, qui est longue de 4,5 km, 4,5 km. Et c'est au départ de la gare de Moscou. Ça fait drôle d'appeler la gare de Moscou, mais c'est à Saint-Pétersbourg. C'est la Nevski compte des curiosités architecturales, et notamment le palais Bieloselski. D'où une vue emblématique. Vous avez l'église de Saint-Sauveur sur le sang versé.
Oui.
Curieux, hein, quand on est en Russie, mais il y a des très belles cathédrales en Russie quand même. Vous avez, par exemple, l'immense cathédrale Saint-Isaac. Sa coupole, c'est un des symboles de Saint-Pétersbourg. La cathédrale Saint-Isaac est la troisième au monde par la taille.
Ah oui?
Donc, après, Saint-Pierre de Rome, et vous avez aussi la deuxième qui est Saint-Paul, à Londres. Alors, c'est intéressant. L'intérieur est très, très chargé, du marbre en particulier. Et l'ascension des 262 marches, c'est recommandé.
Oui.
Oh, ce 262, c'est quand même... pour des gens en forme comme
nous,
c'est très peu. Et ça vaut la peine, parce qu'au sommet, vous avez le panorama sur la ville et le golfe de Finlande. Et c'est magnifique. En redescendant, on découvre le cavalier de bronze, qui est un hommage de Catherine II à Pierre le Grand. Qui sont des noms mythiques lorsqu'on est à Saint-Pétersbourg.
Particulièrement.
Et qu'est-ce que ça vous dirait d'aller dîner chez l'idiot?
Ah oui, c'est un drôle de nom.
C'est un drôle de nom. Le lieu porte le nom d'un des romans célèbres de Dostoïevski. Vous avez un mobilier en bois, des bougeoirs en papier peint vieilli. Vous pénétrez dans l'intérieur de la bourgeoisie russe du 19e siècle. Mm-hmm. Particulier. Le jardin de Tauride a été aménagé dans un style anglais de la fin du 18e siècle. Étonnant quand on est en Russie quand même. Et le palais de Tauride, c'est un cadeau de Catherine II à son favori qui était Potemkin, pour le remercier d'avoir ravi la Crimée aux Turcs. Ça vous dit quelque chose, la Crimée, hein?
Oui.
Et,
ça nous dit,
actuellement, oui.
La péninsule était autrefois appelée Tauride. C'est T-A-U-R-I-D-E, non pas Tauride. Forteresse Pierre et Paul, c'est presque un symbole de Saint-Pétersbourg. On peut pas manquer de la voir lorsqu'on y arrive. À l'origine, elle devait défendre l'ouverture de la Baltique qui avait été arrachée aux Suédois. Mais son histoire est sinistre. Très rapidement, elle est devenue une prison politique où ont séjourné bon nombre de prisonniers célèbres, dont Dostoïevski, qu'on mentionnait précédemment, et le frère de Lénine aussi. Et au centre de la forteresse, l'église renferme les tombeaux de la plupart des Romanov, qui font partie, bien sûr, de l'histoire de la Russie.
Oui.
Vous aviez aussi l'imposante cathédrale Notre-Dame de Kazan et ses 96 colonnes, qui sont inspirées, d'ailleurs, de la basilique Saint-Pierre de Rome. Vous avez l'Ermitage.
Ah oui.
L'Ermitage, célèbre musée, qui est l'un des plus grands musées du monde. Fort intéressant. Vous pouvez y passer des heures. On nous dit le deuxième après le Louvre. C'est certain que si vous êtes en Russie, on va vous dire que c'est le premier. Hein? tant par sa taille et par sa richesse aussi. Mais vous avez aussi le musée russe, qui n'est pas l'Ermitage. Le musée russe qui abrite la plus grande collection de peintures russes. Et on y présente une remarquable chronologie de l'art national. Les slavistes se régalent devant des icônes dont certaines datent du 13e siècle.
Ouais.
Le ballet-théâtre Mikhailovski. Ben, Saint-Pétersbourg continue de former des danseurs d'excellence. Vous savez que ça a été une très grande renommée, les danseurs russes, hein? Et le théâtre Nianovski, c'est l'une des plus grandes scènes russes. Et il se trouve juste à côté du musée russe, sur la place des Arts.
Mais dis-moi, Michel, est-ce que ça coûte cher voyager en Russie?
Ça a coûté très cher. Vous savez que, étonnamment, Moscou, autour de l'an 2000, a été l'une des villes les plus chères.
Mm-hmm.
On nous dit la plus chère au monde. Mais la chute du rouble a fait grincer des dents les Russes qui ont vu leur monnaie perdre 40 % de sa valeur en 6 mois. Alors, pour les voyageurs qui s'intéressent au pays de Pierre le Grand et de Lénine, bien, évidemment, la crise fait pleuvoir des aubaines. Hein? Et peut-être vous donner un exemple. Les prix ont commencé à descendre en 2009 avec la crise économique mondiale. Mais avec la chute du rouble, c'est devenu plus abordable aux étrangers. Par exemple, le prix d'une chambre dans un hôtel 5 étoiles. J'essaie de trouver le nom de l'hôtel, je ne le retrouve pas, c'est pas très grave. Mais le prix dans cet hôtel 5 étoiles, qui était... auparavant, on payait ce prix-là pour un hôtel 2 étoiles. Il serait de 225 $ la nuit, par exemple. Ouais.
Ce qui est 5 étoiles.
Très abordable, ouais. Parce que ouais. Ça a été l'un des hôtels les plus chers au monde. Et actuellement, ça devient abordable. Mm-hmm. Donc, il y a une très, très grande différence de prix. Ça peut être un bon temps pour le visiter. Alors, le voyage entre les deux principales villes de Russie, donc Moscou et Saint-Pétersbourg, et lui aussi bon marché. On nous dit qu'un billet de train à haute vitesse entre Moscou et Saint-Pétersbourg coûte de 3 000 à 6 000 roubles, c'est-à-dire de 50 à 100 $. Et c'est une durée de 4 heures. Train à grande vitesse. Oui. Hein? Donc, c'est quand même très abordable actuellement. Est-ce que c'est le meilleur temps pour y aller? Ben, je ne sais pas. Je peux pas vous dire. C'est toujours discutable. C'est Laura Julie Perrault qui nous en parlait dans la presse.
La place rouge était vide. Devant moi marchait Nathalie. Il avait un joli nom, mon guide, Nathalie. La place rouge était blanche. La neige faisait un tapis. Et je suivais par ce froid dimanche Nathalie. Elle parlait en phrases sobres de la révolution d'octobre. Je pensais déjà qu'après le tombeau de Lénine, on irait au café Pouchki boire un chocolat. La place rouge était vide. Je lui pris son bras, elle a souri. Il avait des cheveux blonds, mon guide, Nathalie. Nathalie. Dans sa chambre, à l'université, une bande d'étudiants l'attendait impatiemment. On a ri, on a beaucoup parlé, ils voulaient tout savoir. Nathalie traduisait Moscou, les plaines d'Ukraine et les Champs-Élysées. On en a tout mélangé, elle en a chanté. Et puis, ils ont débouché en riant à l'avance du champagne de France et on a dansé. Quand la chambre fut vide, tous les amis étaient partis. Je suis resté seul avec mon guide, Nathalie. Plus question de phrases sobres, ni de révolution d'octobre. On n'en était plus là. Fini le tombeau de Lénine. Le chocolat de chez Pouchkine, c'était loin déjà. Que ma vie me semble vide, mais je sais qu'un jour à Paris, c'est moi qui lui servirai de guide, Nathalie. Nathalie.
Beau souvenir, hein?
Beau souvenir.
Oui, super.
Pour moi, magnifique.
On écoutait Nathalie.
Je me sentais sur la place rouge.
Presque.
Absolument. Ah oui, magnifique.
Alors maintenant, on change d'univers. On va parler des chutes du Niagara qui, d'après le titre de l'article, n'existe plus.
Oh, qu'en vont faire les nouveaux mariés?
Ils vont aller ailleurs. Et tu vas voir, un billet de Julien Abadi, publié le 28 mars dans le Huffington Post Québec. Les chutes du Niagara sont des merveilles de la nature qui n'ont en réalité plus grand-chose de naturel. Elles ont été domestiquées, apprivoisées. Au fond, leur destin est celui de la plupart des paysages qui renferment des ressources. La civilisation les dénature pour ses propres besoins énergétiques le plus souvent. Mais dans le cas des chutes, cette dénaturation a atteint des proportions inédites.
Est-ce qu'on peut juger que c'est problématique?
Je voulais juger. Des deux côtés de la frontière, les chutes du Niagara sont utilisées pour produire de l'électricité, beaucoup d'électricité, grâce à des stations de pompage. Situées en amont des chutes et raccordées à des tunnels souterrains, l'eau de la Niagara River est aspirée et envoyée dans les turbines des centrales en aval. On parle quand même de 6 % de la production totale d'énergie de l'Ontario et de 28 % de sa production hydroélectrique. Pour l'État de New York, les chiffres atteignent respectivement 8 % de l'énergie produite et plus de 55 % sous forme hydroélectrique. Ce qu'on dit moins, c'est l'impact de cette production d'électricité sur les chutes, plus précisément sur leur débit. Depuis la signature du Niagara Treaty en 1950, la quantité d'eau prélevée pour raison hydroélectrique est sévèrement réglementée. Hors saison, le débit minimal dans les chutes doit être de 1400 mètres cubes par seconde. Pendant la période touristique, ce seuil est augmenté à 2800 mètres cubes.
Donc le double,
histoire de préserver la magnificence du lieu, mais surtout de ne pas décevoir les visiteurs.
Le spectacle.
Et voilà. Reste une question. Quelle proportion d'eau se retrouve effectivement dans les chutes après la diversion hydroélectrique canadienne et américaine? Aussi incroyable que ça puisse paraître, les deux tiers du débit de la Niagara River sont détournés. Mais ce chiffre n'est pas fixe. Comme c'est stipulé dans le traité de 1950, il peut varier en fonction de la saison touristique. La New York Power Authority et l'Ontario Power Generation sont aujourd'hui capables de réguler très finement la quantité d'eau en circulation. Comme les producteurs d'un spectacle, ils peuvent ouvrir et fermer le rideau quand ils veulent.
Ah, j'aime la comparaison.
Oui. Spectacle. Alors, tu vois, le plus éloquent dans ces données, ce sont les variations jour-nuit durant la saison touristique. Les centrales profitent clairement de l'obscurité pour pomper, comme en hiver, jusqu'à 75 % du débit de la rivière.
C'est fou, hein?
Mais à partir de 8 heures du matin, tout rentre dans l'ordre, on rouvre le robinet et les chutes du Niagara remontent sur scène pour faire leur numéro.
Ah.
Comme le démontrent les recherches du professeur Daniel McFarlane, historien de l'environnement, la manipulation des chutes ne s'arrête pas là. Dans les années 20, par exemple, le cours d'un affluent, la Welland River, a été purement et simplement inversé pour mieux capter le courant de la Niagara River à des fins hydroélectriques. En 1931, le Special Niagara Board a sorti un rapport intitulé « Préservation et amélioration de la beauté des chutes du Niagara et des rapides ». La section, consacrée à la couleur, est particulièrement fascinante. Un colorimètre avait été spécialement développé pour déterminer le débit qui donnait la plus jolie couleur turquoise à l'eau. Le rapport considérait en effet que cette teinte était supérieure à la couleur blanchâtre résultant d'un débit plus faible.
Incroyable.
D'après l'étude, l'embellissement des chutes passait aussi par une réduction de la brume qui gâchait le spectacle. Pardon, une modification des berges dénudées qui enlaidissaient la vue et un ralentissement de l'érosion naturelle qui mettait en danger la symétrie des lieux. La conclusion des rapporteurs était sans équivoque. Il fallait absolument assurer un débit suffisant pour garantir une impression de volume. Des conclusions qui, selon le professeur, serviront de base conceptuelle aux travaux entrepris dans les décennies suivantes. L'objectif était de distribuer l'eau de manière homogène d'une berge à l'autre et de créer un flux d'eau ininterrompu sur toute la largeur des chutes. En tout, plus de 12 millions de dollars seront ainsi investis pour modifier le site et minimiser les impacts causés par les diversions d'eau. Selon les officiels, l'objectif était de préserver la beauté des chutes, mais de bien des manières, il s'agissait surtout de sauver les apparences.
Alors là, on peut se poser quand même des questions. Est-ce qu'on protège ou est-ce qu'on dénature?
Alors, c'est tout à fait juste comme question. L'auteur de l'article reprend les faits. Sous prétexte de protéger un site de la main de l'homme, on l'a dénaturé. Pour atténuer l'impact de l'industrie, on l'a ingénié. Pour lui redonner un air naturel, on l'a modifié. Et dans le même temps, on n'hésite pourtant pas à le promouvoir pour sa magnificence, à le vendre comme une merveille naturelle. L'argumentaire publicitaire ne se heurte au mur de la réalité. Les vraies chutes du Niagara n'existent pas. Ou plutôt, elles n'existent plus. Ce qu'il reste aujourd'hui des chutes originelles, c'est un trompe-l'œil, manipulé par la technologie, un simulacre de paysage naturel qu'on vend aux touristes. Alors, c'était un billet un peu déprimant pour les, ouais. ceux qui font leur voyage de noces-là, à tout le moins.
Ils s'en aperçoivent pas, réellement.
Non,
probablement,
c'est ce qu'il y a. Un billet de Julien Abadie, publié dans le Huffington Post Québec le 28 mars. Alors, terminer les éléphants au cirque d'ici 2018. Le grand groupe de cirque américain Ringling Brothers et Barnum & Bailey va supprimer les numéros avec des éléphants d'ici 2018. L'utilisation de ces animaux emblématiques étant de plus en plus critiquée. Le propriétaire des cirques a annoncé qu'il allait retirer les éléphants d'Asie de ses cirques itinérants. Alors, les cirques avaient accepté en novembre 2011 de s'acquitter d'une amende de 270 000 $ pour mettre fin à des poursuites engagées contre lui en raison de violations de la législation sur la protection des animaux.
Vous écoutez Kiosque Magazine.
Eh bien, c'est la semaine de l'action bénévole et nous tenons à remercier, en commençant cette deuxième partie de l'émission, M. Jean Brière de Québec pour sa lettre publiée dans différents journaux hier. Alors, s'il vous plaît, continuez à nous envoyer vos commentaires, vos besoins, vos souhaits. Cela nous aidera à vous satisfaire mieux encore.
Oui,
à la fin de l'émission, Michel nous redonnera nos coordonnées pour vous permettre de nous joindre. Alors maintenant, je voulais donc rajouter une petite information à le soyer du Québec. Michel m'avait demandé s'il y avait des débouchés. Oui, il y a des débouchés. Je vous parlais de cet agriculteur qui était tellement heureux de la chance qu'il avait dans sa carrière d'être au début d'une nouvelle industrie et que cette année, c'est la première récolte à grande échelle. Pour faire cette culture, il faut 5 plants au mètre carré, pas plus. Le démarrage est difficile, mais la plante arrive à maturité en 2 ou 3 ans. Et après, c'est facile parce qu'elle pousse dans des terres qui sont très peu fertiles. Alors, la première récolte reste modeste puisque c'était 20 hectares au total. En 2015, on espère récolter 160 hectares et le double en 2016. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que le gouvernement du Québec, par l'entremise du programme Accord d'aide aux entreprises, signe avec les 3 partenaires du projet un accord de subvention. Et M. Bouchard, donc, qui est responsable du programme, ajoute en disant « Ce qu'on veut, c'est produire des vêtements québécois avec une fibre québécoise qui va redorer du blason à cette industrie. Et pour lui, cette fibre a le potentiel de créer des emplois. À l'heure actuelle, Chlorophyll doit donc concevoir des vêtements et des sacs de couchage avec la soie d'Amérique, à la place du duvet. Et pour l'attester, c'est Jean-François Tardif et son équipe qui vont aller escalader l'Everest. Donc, toutes ces informations sont extraites de deux articles, La soif d'Amérique pour braver le grand froid, de Radio-Canada, du 23 mars, et Le Québec deviendra-t-il l'Eldorado de la soif d'Amérique, un texte de Jean-Michel Leprince, mis à jour le 20 octobre 2015. J'avais promis de vous parler également du Tai Chi. Alors, c'est un article qui est extrait de Montréal en santé, le numéro d'hiver de 2015, et qui est écrit par Jason Zanterre. Alors, l'histoire commence en racontant qu'un prêtre observait une grue qui chassait furtivement un serpent dans une rivière. Le prêtre décida d'imiter les mouvements gracieux de l'oiseau, et quelques siècles plus tard, une centaine de mouvements plus tard, des millions de personnes pratiquent cet art martial tous les jours.
Pourquoi cet engouement?
Oui, on peut parler effectivement d'engouement.
Oui.
On peut en parler, c'est vrai. Il y a beaucoup de raisons. Et d'abord, le Tai Chi met l'accent sur la force, d'une part, l'équilibre et la flexibilité. C'est une forme d'exercice qui est douce, raffinée et qui peut être pratiquée par des gens de tous les âges. On parle aussi bien des adolescents que des personnes très âgées. Et voici un témoignage d'un monsieur de 72 ans qui dit « Le Tai Chi améliore mon équilibre, tant physique que mental, et maintenant je ne peux plus m'en passer. À présent, je me sens rarement stressée et je ne suis jamais malade. » Ça pourrait devenir addictif. Hein? Oui. Dans l'article de l'auteur, il est écrit d'abord que c'est un des meilleurs exercices pour les gens de plus de 50 ans et que l'exercice intègre le mental avec le physique parce que dans l'exécution de chaque mouvement, le participant doit concentrer son attention et son intention derrière le mouvement. Et c'est cela qui crée une harmonie parfaite. Mmh. On est tous en quête d'harmonie, n'est-ce pas? Mmh. De plus, le Tai Chi, ça procure une énergie, ça procure de l'énergie, ça diminue la pression sanguine et même stimule la digestion. Par ailleurs, c'est un exercice qui préserve les articulations puisque les adeptes déplacent lentement leur poids d'une jambe à l'autre. La force et la densité des os augmentent donc. Par ailleurs, les mouvements lents et tendus des membres supérieurs, comme des membres inférieurs, d'accord, d'ailleurs, aident à maintenir les articulations en santé en minimisant les risques de blessures. Alors, c'est pas surprenant que des médecins en Chine prescrivent souvent un programme d'exercice semblable pour les patients en convalescence d'une chirurgie ou d'une maladie.
D'ailleurs, en passant, lorsque vous promenez en Chine, et particulièrement en Asie, vous voyez régulièrement le matin des gens dans des parcs en groupe qui pratiquent le Tai Chi.
J'ai vu ça là, à la télé, mais des groupes gigantesques.
Oui, oui, tout à fait,
je ne sais pas si on peut appeler ça des groupes
très,
ou des fous.
C'est très joli le matin, très tôt, vous les voyez.
Juste aller regarder, hein, c'est apaisant, c'est vrai.
Tout à fait.
Alors, le plus grand défi pour quelqu'un qui commence le Tai Chi, c'est valable comme pour tout autre entraînement, c'est de ne pas abandonner parce que si on veut obtenir les résultats qu'on en attend, il faut pratiquer régulièrement et être patient. Dans l'article, il est aussi recommandé, si vous cherchez une école pour pratiquer le Tai Chi, qu'elle réponde vraiment à vos besoins parce qu'il existe plusieurs styles de Tai Chi. Hein. Certains sont plus exigeants physiquement que d'autres. Alors, allez en voir plusieurs, parlez avec les instructeurs, regardez un cours, demandez-vous si vous seriez à l'aise avec l'ambiance, les participants, parce que c'est quand même un engagement à long terme. Alors, en conclusion, il dit que le Tai Chi, c'est l'équilibre parfait entre l'exercice physique et mental. Et c'était un article de Jason Santerre dans le Montréal en santé de l'hiver 2015.
Thank you.
Alors, la curieuse histoire du thé. Marie-Soleil Desautels nous en parle, nous en parlait dans l'actualité du 15 octobre 2014, cependant. On fait un petit retour en arrière. Hein?
Oh, c'est ben, pas
le
très
thé, c'est
l'histoire
tout,
du thé.
Le thé, c'est de toute saison.
C'est pas gênant.
Hein? Ben, ça ne va pas s'arrêter maintenant, quand même. Hein? Et au 18e siècle, la Chine exporte des tonnes de thé chez les Anglais, qui contrôlent alors le transport des marchandises entre l'Europe et l'Asie. Les Britanniques, cependant, cherchent à briser le monopole de la Chine, dont ils dépendent pour s'approvisionner en thé, entre autres produits, parce qu'il y en avait bien d'autres. Alors, s'ils paient d'abord les Chinois en monnaie d'argent, et ça, c'est un peu moins drôle, ils finissent par inonder le marché chinois d'opium, qui est alors cultivé... L'opium était alors cultivé en Inde britannique. Alors, cette drogue dévastatrice, on le sait, devient une monnaie d'échange, curieusement, contre le thé, et ravage ainsi l'Empire du milieu, qui réagit en menant deux guerres de l'opium au 19e siècle, et qui sont remportées. Ces guerres-là ont été remportées, bien sûr, par les Britanniques. Cependant, les Anglais veulent toujours être maîtres de leur thé. En 1823, un employé de la Compagnie britannique des Indes orientales découvre des théiers sauvages dans le nord-est de l'Inde. Évidemment, les Anglais sont intéressés. Alors, ils aménagent une première plantation en Inde en 1834. Mais les récoltes déçoivent leur papille. Ils ne trouvent pas intéressantes. Ils envoient alors un botaniste en mission chez les Chinois, une espèce d'espion, si on veut, hein? dans le but de copier le savoir-faire des Chinois. Et en 1848, cet espion revient en Inde avec quelques 80 ouvriers et 20 000 plants de théier.
C'est pas second, quand même.
Ah oui, qui ont notamment pris racine à Darjeeling. Ah, je vous parlais de la guerre, de la guerre de l'opium. Une petite référence. Il y a un livre extraordinaire sur la guerre de l'opium qu'on connaît très peu ici. Ça s'appelle Un fleuve de fumée. C'est Amitav Ghosh qui a écrit ce livre-là. C'est fort intéressant. C'est une véritable révélation, en tout cas pour moi.
Michel, je t'interromps là.
Oui, mais allez.
Qu'est-ce qu'il en est de la consommation de thé ici au Québec? Parce que c'est bien beau l'histoire du thé, mais on peut savoir ce qui se passe ici.
On passe à autre chose.
Quand même.
Bon, voulez-vous qu'on parle complètement autre chose?
Non, pas du tout, pas du tout.
Alors, ben, c'est pas d'hier que des entreprises du Québec ont innové. Est-ce que vous saviez que Salada... C'est un nom que je pense que tout le monde connaît.
Oui.
Ben, ça, là, c'est l'une des premières sociétés à avoir vendu du thé en sachet. Et ça a été fondé par un Montréalais.
Ah oui?
Ben, je voulais savoir son nom par curiosité, Charles Larkin. Et c'est en 1892. Donc, c'est pas d'hier, hein?
Non.
Alors, quelques 120 ans plus tard, le thé connaît un immense regain de popularité. Et il y a un autre Montréalais qui tente à son tour de révolutionner cette industrie. Et ses boutiques offrent des thés aux saveurs insoupçonnées, pour les connaisseurs, ils doivent le savoir. Bon, je ne le savais pas. Tel que le chocolat à la menthe, le popcorn. Le popcorn. Et ça pousse comme des champignons au lendemain d'un orage. Dans 6 ans à peine, il a ouvert 126 succursales au Canada et aux États-Unis.
Wow.
Ah, ça vous donne une idée de ce que c'est. Hein? L'entreprise profite de la thémanie qui s'est emparée de l'Amérique du Nord, où le marché du thé atteint plus de 10 milliards de dollars en 2012.
Mm-hmm.
Considérable, hein?
Oui.
Au Canada, la consommation de cette boisson a bondi de plus de 34 % depuis 2000. Et ça atteint 83 litres par personne par année.
Et c'est quand même...
Ben, 83 litres.
Ouais, c'est quelque chose.
Il s'y boit 9,7 milliards de tasses de thé chaque année. Pour vous donner une idée, selon Statistique Canada, il y a de quoi remplir 500 piscines olympiques.
Quand même. Est-ce que ça, c'est... Est-ce que les Américains sont des amateurs ou des adeptes
la
du thé?
La même fièvre a gagné les Américains, à mon grand étonnement, qui ont siroté 79 milliards de tasses de thé en 2012. Et les ventes de thé aux États-Unis ont quintuplé depuis 1990. Oh, on peut dire que c'est l'heure du tea party chez l'oncle Sam. Hein? Si la boisson préférée de la reine Élisabeth II est devenue aussi in, c'est peut-être en partie à cause de la dernière crise économique. Acheter en épicerie un thé noir en sachet coûte de 3 à 5 cents la tasse. C'est peu, hein?
C'est peu, ben c'est pas beaucoup.
Alors qu'il faut compter de 5 à 27 cents pour une tasse de café moulu. Alors, le thé, est-ce que c'est la boisson des pauvres? Bien, la présidente de l'Association du thé du Canada croit plutôt que l'engouement pour les produits santé et aussi l'immigration asiatique sont les principaux moteurs de cette croissance, sans compter que certains thés rares sont plus chers que le meilleur des cafés. Dans les années 1990, l'industrie du thé a financé des études pour prouver les bienfaits de son produit, notamment ses vertus anticancéreuses. Mm-hmm. Et la communauté chinoise a aussi fait découvrir aux Nord-Américains de nouvelles variétés, comme le thé vert, qui est devenu l'un des plus populaires. Alors, cette nouvelle soif de thé atteint aussi les jeunes. Parce que les baby-boomers ont bu du café pour se rebeller contre leurs parents qui étaient des buveurs de café. Et on nous dit que maintenant, leurs enfants reviennent au thé. Et le cabinet de recherche Nielsen prévoit que si la tendance se maintient, on se pensera aux élections, mais si la tendance se maintient, le thé augmentera de 40 % d'ici 2020, alors que le café n'augmentera de 11 %. Donc, vous imaginez la progression actuellement du thé. Alors, on nous dit que la bataille du thé est commencée. Et c'était par Cathy Noël dans l'actualité.
Voir la mer et ses plages d'argent, ses falaises blanches fières dans le vent. Je voudrais voir la mer et ses oiseaux de lune, et ses chevaux de brume et ses poissons volants. Je voudrais voir la mer quand elle est un miroir, où passent sans se voir des nuages de laine, et les soirs de tempête dans la colère du ciel, entendre une baleine appeler son amour. Je voudrais voir la mer et danser avec elle pour défier la mort. Je voudrais voir la mer et danser avec elle pour défier la mort. Je voudrais voir la mer avaler un navire, son or et ses canons, pour entendre le rire de 100 millions d'enfants qui n'ont pas peur de l'eau, qui ont envie de vivre sans tenir de drapeau. Je voudrais voir la mer, ces monstres imaginaires, ces Hollandais volants et ces bateaux de guerre, son cimetière marin et son lit de corail où dorment les requins dans des draps de satin. Je voudrais voir la mer et danser avec elle pour défier la mort. Je voudrais voir la mer et danser avec elle pour défier la mort. Je vis dans une bulle au milieu d'une ville. Parfois mon cœur est gris et derrière la fenêtre je sens tomber l'ennui sur les visages blêmes et sous les pas pesants que traînent les passants. Alors du fond de moi se lève un vent du large, aussi fort que l'orage, aussi doux qu'un amour. Et l'océan m'appelle d'une voix de velours et dessinant mon corps le mouvant de la vague.
Alors, nous écoutions Michel Rivard et l'Orchestre symphonique de Montréal.
Oui, c'est magnifique.
C'était magnifique.
Oui. Merci, Jean-Sébastien.
Alors maintenant, je vous parle de l'acidification des océans qui serait grande responsable de l'extinction d'espèces. C'est un article de l'agence France Presse Washington publié le 9 avril. Des chercheurs ont déterminé que l'acidification des océans causée par la forte augmentation de dioxyde de carbone après d'énormes éruptions volcaniques a provoqué la plus grande extinction d'espèces de l'histoire de la Terre il y a 252 millions d'années. Plus de 90 % des espèces animales marines et plus des deux tiers des espèces terrestres ont alors disparu en absorbant le dioxyde de carbone ou CO2 de l'atmosphère. La composition chimique des océans s'est modifiée pour devenir plus acide, ce qui a eu des conséquences catastrophiques sur la faune et la flore, ont expliqué des scientifiques dont l'étude a été publiée dans la revue américaine Science. Ou Science. Ces résultats vont être utiles pour aider les scientifiques à comprendre la menace que représente l'acidification actuelle des océans pour la vie marine. Les scientifiques suspectaient depuis longtemps qu'une acidification des océans s'était produite pendant la plus grande extinction de tous les temps. Mais on ne disposait pas jusqu'alors de preuves, a dit un géoscientifique de l'Université d'Édimbourg au Royaume-Uni qui a coordonné ses travaux. Il trouve aussi que les résultats sont préoccupants, étant donné qu'on peut déjà voir aujourd'hui une augmentation de l'acidité dans les océans, résultat des émissions carboniques des activités humaines. Ce phénomène résulte de l'augmentation rapide des émissions de gaz à effet de serre, dont notamment le CO2 provenant de la combustion des énergies fossiles, responsable des changements climatiques. Les scientifiques ont noté que les quantités de dioxyde de carbone rejetées dans l'atmosphère liées à l'extinction de masse d'il y a 252 millions d'années étaient probablement plus importantes que les réserves d'énergie fossile d'aujourd'hui. Mais selon eux, le rythme de progression rapide des émissions de CO2 était alors similaire à celui d'aujourd'hui et il a été un facteur clé dans l'acidification des océans à cette époque. La grande extinction dite de Permien-Triassique s'est étalée sur une période de 60 000 ans. Si l'acidification des océans elle-même n'a duré qu'environ 10 000 ans, elle a néanmoins joué un rôle essentiel dans la disparition des espèces en donnant le coup de grâce à un écosystème déjà affaibli par la montée des températures et la perte d'oxygène. Les océans ont la capacité d'absorber, sans conséquence, seulement une certaine quantité de CO2.
Une question que je me suis toujours posée, comment les scientifiques sont capables d'expliquer ce qui s'est produit il y a aussi longtemps?
Ah, c'est une bonne question. Dans l'article, on n'en parle que très brièvement. Alors, ce qu'on dit, c'est qu'ils ont analysé des roches provenant des Émirats arabes unis qui se trouvaient à l'époque de la grande extinction sur le fond de l'océan. Elles ont conservé, ces roches, les traces détaillées des changements survenus dans les océans. À partir des données obtenues, ils ont élaboré un modèle climatique pour déterminer les facteurs responsables de cette extinction. Alors, c'est une courte réponse. J'appelle que c'était un article de l'agence France Presse Washington publié le 9 avril. Et je vous propose également un autre article publié aussi le 9 avril sur le site de radiocanada.ca au sujet d'une bactérie qui pourrait venir en aide à des chauves-souris menacées en Amérique du Nord, et dont le titre est « Un espoir pour sauver les chauves-souris ». Des chercheurs américains ont découvert une bactérie qui pourrait être utilisée dans la lutte contre le syndrome du museau blanc qui décime les chauves-souris en Amérique du Nord.
Mais qu'est-ce que c'est, ce syndrome du museau blanc?
Ah, c'est une bonne question. Le syndrome du museau blanc est présent dans 5 provinces canadiennes, dont le Québec, et 25 États américains. Le Service américain de la faune estime que 5,5 millions de chauves-souris en sont mortes jusqu'à présent. Et comme on ne donnait pas de description du syndrome dans l'article tel quel, j'ai cherché, et l'information que je vous donne provient du site du ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs du Québec. Alors, ce syndrome se caractérise par des mortalités massives de chauves-souris, souvent associées à l'observation d'une croissance fongique blanche sur le museau, les oreilles ou la membrane des ailes des chauves-souris touchées. De plus, chez les individus affectés, il n'est pas rare de constater une absence ou de faibles réserves de graisse qui leur permettent normalement de subsister durant l'hibernation jusqu'au printemps. L'organisme qui prospère généralement dans les milieux froids et humides peut s'attaquer aux chauves-souris lors de leur hibernation en s'introduisant dans les tissus des animaux. puisque les chauves-souris cavernicoles hibernent dans des endroits favorables à la croissance du champignon et qu'elles doivent abaisser leur température corporelle pour l'hibernation, elles deviennent alors à la merci du champignon. Alors, je poursuis. Une équipe de chercheurs de l'Université de la Californie a recueilli 40 échantillons de bactéries sur la peau de 4 espèces de chauves-souris, dont 3 qui hibernent dans les maritimes et qui ont été touchées par la maladie. Le chercheur responsable indique que 6 des 40 échantillons se sont avérés prometteurs dans la lutte contre le champignon. 2 échantillons étaient particulièrement efficaces. Alors, ils sont maintenant à l'étape des tests. On va exposer des chauves-souris aux champignons, on va les traiter avec la bactérie prometteuse et si les résultats sont positifs, d'autres tests à petite échelle seront faits dans la nature. On ne croit pas qu'il sera possible d'éradiquer la maladie, mais le chercheur espère qu'il pourra réduire son impact. Alors, c'est un article publié le 9 avril sur le site de radiocanada.ca.
Pour le petit déjeuner, imaginez-vous ça.
Oh.
C'est un Australien de 22 ans qui a eu la frousse de sa vie mardi dernier lorsqu'il a trouvé un python tapis qui s'est enroulé dans sa boîte de céréales.
Wesh.
Ouais. Alors évidemment, le jeune homme était d'abord effrayé. Il a contacté rapidement un organisme protégeant la faune australienne et un employé de l'organisme s'est dit surpris par le choix de cachette du reptile qui se serait faufilé dans la demeure au cours de la nuit. Et il dit textuellement, « Le python était tellement serré dans la boîte qu'il a fallu la déchirer pour finalement le sortir de là.
Mmh. »
L'animal ensuite a été relâché dans une forêt non loin de là, et malgré sa taille imposante, le python tapis est un reptile inoffensif. Quand même.
Quand même.
Ah, je vous ai parlé du thé tout à l'heure. Je vais vous mentionner comment se fait la transformation du thé de Darjeeling. D'abord, vous avez le flétrissage, où les feuilles sont étalées sur une grille pendant 14 à 17 heures. Alors, les feuilles vont ramollir et vont perdre jusqu'à 70 % de leur humidité. Par la suite, vous avez le roulage. Vous avez des machines qui roulent les feuilles pour briser leurs cellules et libérer leurs huiles qui vont donner l'arôme. Vous avez par la suite l'oxydation. Les feuilles sont oxydées dans une pièce très humide pour obtenir un thé noir. Par la suite, la dessiccation. On arrête le processus d'oxydation en séchant des feuilles à 120 degrés Celsius. Il ne reste que environ 2 % d'humidité à ce moment-là. Et enfin, le triage. Les feuilles sont triées selon leur taille, qui est la gage du grade. Donc, il va faire le prix aussi. Ça indique si les feuilles sont entières, brisées, broyées, mais ça n'a pas nécessairement trait aux qualités gustatives du thé. Voilà, c'était le processus de transformation.
Merci.
Alors, un couple de perroquets pour relancer les perroquets bleus à Rio. Un couple de petits perroquets bleus, Ararina Azul, comme Blue et Perla du célèbre dessin animé Rio, sont arrivés en provenance d'Allemagne au Brésil pour y relancer l'espèce dont il ne reste que 92 spécimens dans le monde entier et ils sont tous en captivité. Ils sont frères et sœurs, ils ont 11 mois et n'ont pas encore l'âge de la maturité sexuelle, mais le but est de les croiser plus tard avec les 11 Ararina du Brésil.
Le Canada serait-il le pays de la douleur? La réponse dans cette brève, donc, les Canadiens seraient les plus grands consommateurs d'opiacés sur ordonnance au monde, à égalité avec les États-Unis. L'Ontario et l'Alberta arrivent en tête, avec respectivement 1 300 unités distribuées pour 1 000 habitants, et le Québec se situe à l'autre bout du spectre. Voilà.
Et voilà qui nous amène à la fin de notre émission. J'espère que nos sujets variés vous ont plu. Je remercie André Étienne et Marie Lalande. Et bien sûr aussi Jean-Sébastien Laliberté. Je vous ai tous retrouvés avec un grand plaisir. Nous sommes en reprise à 13h et à 21h. Continuez à nous envoyer des commentaires, des suggestions à canalm.org. Ça nous fait toujours plaisir de vous lire, de vous entendre. Alors, on vous souhaite à tous une très bonne journée.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.